Vous le savez, nous avons une série en cours sur la Genèse. Nous avons fait les trois premiers chapitres et nous arrivons au chapitre 4. Chapitre 4 où nous croisons Caïn et Abel. Et je vous propose de nous limiter aux 8 premiers versets de ce récit. Donc au chapitre 4 de la Genèse, vous pouvez chercher dans vos bibles, mais je vais afficher le texte également. Donc Genèse chapitre 4, verset 1. L'homme eut des relations avec Ève, sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, « J'ai produit un homme avec le Seigneur. » Elle mit encore au monde Abel, son frère. Abel devint berger de petite bétail et Caïn cultivateur. Après quelque temps, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel, lui, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très fâché et il se renfrogna. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu renfrogné? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. » Caïn parla à Abel, son frère, comme il était en pleine campagne. Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Jusqu'ici notre lecture. Il y a des passages dans la Bible qui sont plus faciles à lire que d'autres. Et je pense que celui-ci n'est pas particulièrement facile à lire. Il y a un malaise à lire ce récit. Et je crois que le malaise, il est surtout autour de ce que le Seigneur agrée ou pas l'offrande. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu agrée l'offrande d'Abel et pas de Caïn? Et cette question, elle est d'autant plus importante que les conséquences sont dramatiques, puisque ça se termine par la mort d'un des deux frères, par le meurtre d'un des deux frères. Pourquoi? Et les explications ne sautent pas aux yeux parce que l'auteur de ce texte a réduit le récit à l'essentiel. Il n'y a pas de détails superflus, on ne rentre pas dans la psychologie, dans les relations, dans les dialogues. On a l'essentiel. Je propose de regarder un peu ce passage. On avait laissé Adam et Ève chassés du jardin, expulsés du jardin d'Éden, où ils avaient été placés, expulsés à cause de leur péché. Ils avaient désobéi à Dieu, choisi de ne pas l'écouter, de ne pas suivre sa voie. Et là, on les retrouve avec leur descendance. Ils ont deux garçons, deux frères. C'est intéressant de voir dans le texte qu'on parle de Caïn et Abel, Abel et Caïn, comme ça, de façon indifférente. Un coup, c'est l'un qui est le premier, un coup, c'est l'autre. Il y a quand même une différence entre les deux, une différence qu'on voit dans les deux premiers versets. Caïn a de l'importance, au moins pour sa mère, qui le nomme, qui a cette déclaration de joie un petit poème. J'ai produit un homme avec le Seigneur. Et d'ailleurs, certaines traductions disent j'ai acquis. Et le nom Caïn rappelle ce terme. J'ai acquis un homme, j'ai produit un homme. Donc, il porte ça dans son nom. Il est l'accomplissement d'une attente, de quelque chose qui était attendu. Alors que Abel, non seulement on ne nous dit pas grand-chose, mais en plus son nom, ça veut dire la fumée, la buée, ce qui est insignifiant, la vanité. C'est le terme qui est utilisé dans l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Abel, dans son nom, il est insignifiant. Donc il y a une différence quand même à la naissance entre les deux frères. Et puis, il se lance dans la vie, il y en a un qui cultive, l'autre qui élève. C'est intéressant de voir la poursuite du mandat de Dieu. Le Dieu avait mis l'homme dans le jardin pour travailler la terre, c'est ce que fait Caïn, et pour dominer sur les animaux, eh bien, c'est ce que fait Abel. Il continue le mandat que Dieu a donné. Ils travaillent et, à un moment, ils apportent à Dieu une offrande, fruit de leur travail. Ils veulent remercier Dieu, remercier le Seigneur de ce qu'il les aide, de ce qu'il produit, de ce qu'il dirige toutes choses, par une offrande. Et c'est là qu'on a notre difficulté. Chacun vient avec le fruit de son travail, des fruits de la terre pour Caïn, des animaux pour Abel. Et Dieu agrée l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. C'est la difficulté, on va revenir dessus. On peut poursuivre un peu ce qui se passe. Dieu invite quand même Caïn à se ressaisir et à offrir une offrande qu'il agréera. Mais Caïn ne se ressaisit pas. Et c'est la suite du récit dramatique avec le meurtre de son frère. Et à première lecture, on a l'impression que ce meurtre, il fait suite au désespoir de Caïn de ne pas être reçu. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Comme je l'ai dit, et puis comme nous l'avons vu, le texte est très ramassé. Il y a peu de détails. Et donc les théories vont bon train. Certains insistent sur l'arbitraire de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et là, il pousse au meurtre. C'est des choses qu'on peut lire. Je suis pas mal l'actualité de la bande dessinée. Ça fait partie de mes activités extra-ecclésiales. Et il y a un livre qui est sorti cette semaine qui relie certains récits de la Bible. Et c'est vraiment comme ça que Dieu est présenté sur Caïn et Abel. Dieu arbitraire qui rejette Caïn sans raison. Pour d'autres, ils sont embarrassés, mais ils essayent d'expliquer que si Dieu a fait ça, c'est pour faire prendre conscience à Caïn de son frère qui est à côté de lui, ce frère insignifiant, dont le nom signifie vanité. Tu es le fils préféré, ouvre les yeux pour voir celui qui est à côté de toi et accueille-le. Et j'ai trouvé comme ça un commentateur qui expliquait pendant longtemps, pourquoi c'était nécessaire que Dieu refuse cette offrande pour faire prendre conscience à Caïn de son frère. C'est très intéressant de travailler comme ça, ce lien entre les deux frères, mais je pense que c'est pousser le texte un peu loin. Pour comprendre, en fait, le mieux, c'est la Bible elle-même. On a quand même le verset 7 qu'on a lu, où Dieu dit « si tu agis bien ». Si tu agis bien, ça laisse entendre quand même que Caïn n'a pas bien agi. Et puis, Cain, c'est quand même une figure qui a fait réfléchir et qui est citée dans le Nouveau Testament. On le retrouve dans Hébreux 11. Alors, Hébreux 11, c'est un texte qui porte avec tous les héros de la foi passée. Et dans ce texte, on parle d'Abel et de Caïn. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Donc, le Nouveau Testament nous dit que le sacrifice d'Abel était d'une plus grande valeur que celui de Caïn. Il y a aussi 1 Jean qui se pose la question, la première épître de Jean, « Pourquoi Caïn tua-t-il son frère ?» Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Alors, quand on lit le récit de Caïn et Abel, les œuvres de Caïn, il n'y en a pas 36. La seule qui nous est racontée, c'est l'histoire de cette offrande. Donc le Nouveau Testament nous explique de ce que l'offrande d'Abel était bonne, supérieure, meilleure que celle de Caïn, et même que celle de Caïn, que son œuvre était mauvaise. Pourquoi ? Quel était le problème avec l'offrande de Caïn ? Il y a un premier problème qu'on peut voir, celui de la disposition du cœur. Caïn, on le voit dans le récit, révolté. Révolté de ce que Dieu n'a pas accepté son offrande. Parce qu'il est venu avec son offrande, il lui a présenté quelque chose et il ne l'a pas accepté. Il est venu avec, Dieu aurait dû l'accepter. Mais il oublie que Dieu est souverain. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qu'on manipule. Je viens vers toi, je viens t'offrir une offrande, tu l'agrées, tu me donnes quelque chose en retour. Ça, c'est du paganisme, de venir comme ça, en espérant quelque chose en retour. Ce n'est pas la relation que veut Dieu, la relation profonde. Là, Caïn, il fait le job. Il fait le boulot, Dieu doit agréer. Mais le texte ne dit pas grand-chose, mais il y a quand même des détails dans le texte qui nous permettent d'y voir plus clair. Je les ai surlignés. On nous dit que Caïn apporta du fruit de la terre, alors qu'Abel apporta les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Le récit de Genèse nous dit que Caïn apporte une offrande quelconque, ce qu'il avait sous la main, alors qu'Abel a pris le temps de choisir ce qu'il avait de meilleur. Vous vous souvenez peut-être la prédication que nous avons eue au début du mois sur l'offrande. Nous avons parlé des prémices, le début. Le début de la récolte, le début des nouvelles naissances, apporter au Seigneur en toute confiance ce qu'on a de meilleur. Et là, avec la graisse en plus, la meilleure partie de l'animal. Certains commentateurs, et vous trouverez peut-être ça dans vos Bibles, si vous avez des Bibles d'études avec des notes en bas de page, soutiennent que l'offrande d'Abel est meilleure parce que c'était un animal qui a dû être mis à mort, parce que le sang a coulé. Rien dans le texte nous permet de penser ça. Le sang est nécessaire pour les sacrifices d'expiation dans la loi de Moïse, etc. Rien dans le texte nous parle de sacrifice d'expiation ici. C'est vraiment une offrande. Un acte de reconnaissance pour ce que Dieu leur a donné. Et on voit Abel qui offre ce qu'il y a de meilleur, et Caïn, ce qu'il a sous la main. Leur offrande montre la disposition de leur cœur. Abel, à ce sacrifice, réfléchit avec ce qu'il a de meilleur. Caïn, ce qu'il a sous les mains, pensant que ça suffira. Le problème, ici, avec cette offrande des deux frères, ce n'est pas que l'offrande de Caïn est inférieure à celle d'Abel. Le problème, c'est que l'offrande de Caïn est inférieure à ce qu'elle aurait pu être. Caïn aurait pu offrir mieux, il a offert moins bien, que ce qu'il aurait pu offrir. Un mot sur la suite du récit, cette suite qui nous amène jusqu'au meurtre. On voit quand même Dieu qui tend la main. Cette offrande, c'est important, suffisamment important pour que Dieu ne l'agrée pas. Mais pas suffisamment important, déterminant pour que Caïn soit perdu. Dieu lui tend la main. Si tu agis bien, tu te relèveras. Il y a cette invitation. Le terme utilisé pour péché dans le verset 7, le péché est tapis à ta porte, c'est le terme qui veut dire manquer la cible. Tu rates la cible. Tu peux faire mieux, vise mieux et tu te relèveras. Voilà ce que Dieu dit à Caïn. Il l'invite à corriger son comportement en lui donnant une nouvelle chance, mais cette nouvelle chance, Caïn ne la saisira pas. Et au lieu de se corriger, il s'en prend à celui qui fait bien. Celui qu'il envie. Et on a le premier meurtre de la création. Un récit dramatique, en vérité. Un récit qui nous montre, je crois, combien le culte est important. Cette offrande qu'ils apportent, c'est un moment cultuel devant Dieu. Ce que Dieu leur reproche, ce que Dieu reproche à Caïn, ce n'est pas de s'être mal comporté vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de son frère ou quelque chose. C'est dans son culte, dans son rapport à Dieu, qu'il a raté la cible. Et ça nous amène à nous poser la question, comment vivons-nous le culte ? Quand on lit l'Ancien Testament, on voit un culte très codifié, avec des règles, il faut faire ceci, cela, etc. Avec Jésus, on est dans une très grande liberté. Donc, on n'est pas dans des règles à suivre, des règles qu'il faudrait respecter. Et par rapport aux règles, justement, Jésus l'annonce dès le début de son ministère. Quand on lui demande, c'est la femme samaritaine qui lui demande « Où est-ce que ça se passe ? C'est à Jérusalem ? C'est sur la montagne ?» Jésus dit « L'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Il ne s'agit pas d'avoir des règles pour faire les choses bien. C'est la disposition du cœur qui est importante. Jésus le rappelle. En esprit et en vérité, la disposition du cœur est importante, mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Et ce récit de Caïn et Abel nous le rappelle. Eux non plus n'avaient pas des règles à suivre, mais eux non plus ne devaient pas faire n'importe quoi. L'exigence reste la même. Paul invite les Romains. « Je vous encourage donc, mes frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu, voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Quelque chose d'exigeant. Votre corps en sacrifice. C'est pas rien. C'est entier. Et de fait, nos chants suivent ce mouvement. Vous reconnaissez celui-ci ? Il fait partie des préférés de notre Église. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Le vivons-nous. L'offrande que nous pouvons apporter à Dieu peut prendre différentes natures. On peut avoir des offrandes en argent, en temps, en énergie. Est-ce que nous apportons quelque chose de quelconque ou le meilleur de ce que nous avons? Quand j'apporte mon offrande en argent, quand je la mets dans la corbeille, est-ce que je mets là ce que j'ai décidé par avance, ou ce qui me reste, le superflu? Quand je prends du temps pour Dieu, est-ce que je viens un dimanche, de temps en temps, quand j'ai le temps, ou est-ce que j'en fais une priorité? Est-ce que j'arrive en retard, à l'arrache? Ou est-ce que je me suis levé pour ça, pour offrir ce que j'avais de meilleur? Au niveau de mon énergie, de mon attention, est-ce que je viens faire acte de présence? Ou est-ce que je viens mettre en œuvre toute mon énergie pour chanter, pour prier, pour écouter ce qui est dit? Est-ce que je viens comme ça, à l'arrache, ou est-ce que je me couche tôt pour pouvoir, le lendemain, offrir le meilleur? Ce sont là des pistes de réflexion et non pas des règles à suivre. Comme je l'ai dit, l'important, c'est la disposition du cœur. Le but, ce n'est pas de faire plaisir au pasteur, le but, ce n'est pas que les autres pensent qu'on soit un bon chrétien. Le but, c'est d'offrir à Dieu ce qu'on a de meilleur, dans son cœur. Le texte que nous avons lu, je crois, nous montre que l'offrande que nous apportons reflète la disposition de notre cœur. L'offrande mauvaise de Caïn a reflété que son cœur était mauvais. C'est l'interprétation qu'en fait le Nouveau Testament. Ça peut mettre la pression sur la façon dont nous vivons le culte, dont nous vivons notre rapport à Dieu. Je pense qu'il ne faut pas oublier que Jésus accueille ceux qui se tournent vers lui, tels qu'ils sont. Il sait mettre en valeur ce que nous lui apportons avec un cœur sincère. Il sait mettre en valeur les 5 pains et les 2 poissons amené par un petit garçon. Il sait mettre en valeur l'offrande de la veuve de 2 petites pièces. Il sait mettre en valeur l'offrande d'Abel, l'insignifiant. Comment venons-nous, comment ressortons-nous du culte? Est-ce que nous avons l'impression d'être agréés par Dieu? Ou à l'opposé, est-ce que quand on ressort de l'Église, c'est pour nous un sujet d'amertume, avec une colère qu'on dirige contre nos frères, qui semblent tellement s'épanouir dans le culte, avoir une si belle relation avec Dieu, alors que nous, ça ne nous fait pas cet effet-là. Si c'est ce cas, si je n'y trouve pas mon compte lorsque je viens à l'Église, sans doute faut-il se laisser interpeller par ce que dit le Seigneur à Caïn. Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu renfrogné? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. Le péché tapis à notre porte, c'est penser que ça roule tout seul avec Dieu. Penser qu'on sait ce qu'il faut faire pour être béni. Nous ne nous endormons pas. La semaine dernière, dans 1 Pierre, on lisait « Soyez pondérés et sobres en vue de la prière ». Un peu plus loin, dans la même épître, 1 Pierre poursuit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Soyons sobres, soyons vigilants. Veillons, ne nous laissons pas distraire. Prions pour rester en phase avec Dieu. Alors nous pourrons, avec Dieu, nous ressaisir si nous manquons la cible. Il nous laisse toujours une chance, mais il faut la saisir et ne pas s'endurcir. Ce principe, cet avertissement, cette interpellation du Seigneur à ne pas rater la cible, elle est applicable à toute la vie chrétienne, de se tenir devant le péché et de lutter. Mais ce matin, notre texte porte notre attention sur le culte, à travers ce temps de culte. Ce temps de culte où nous déclarons mettre Dieu à la première place. Eh bien, à travers ce temps de culte, l'inclinaison de notre cœur transparaît. Quelle offrande apportons-nous à Dieu? Tu parlais d'argent, de temps, d'énergie, que sais-je? Quelle offrande est-ce que j'apporte à Dieu quand je viens me présenter devant lui? Est-ce ce que j'ai de meilleur? Ou simplement ce que j'ai sous la main? Je vous invite à prendre un temps de réflexion devant notre Dieu.